Shefton qui se met à la table aussi. Voilà, donc, alors au niveau technique, vous avez un micro avec un long fil qui pourra circuler de l'un à l'autre pour l'instant.
Est-ce que ça va jusqu'au bout?
Moi-même, je vais travailler avec ce petit micro, mais je dois faire attention à la scène, donc on verra de manière à ne pas vous percer les oreilles. J'ai déjà reçu 4 questions. Alors, il y en a 2 qui vont un peu dans le même sens, je vais les lire, puis on verra s'il y en a d'autres questions parmi vous qui vont dans ce même sens. Quelqu'un dit « J'ai apprécié l'analyse de Mgr Bonny sur les principes de primauté et collégialité, comme vécu différemment par l'Église catholique d'une part et les Églises orthodoxes d'autre part. Quel chemin de vie prendre concrètement? Quel remède proposez-vous pour travailler à l'unité demandée par Jésus-Christ Ulum Sint ?» Sans effacer ces diversités. Un petit mot ou une phrase clé, théologique ou pragmatique, est-ce que vous pourriez nous aider? Dans ce même sens, alors Monseigneur, nous avons pris l'habitude de rassembler 3-4 questions et puis de passer la parole. Dans cette même ligne, aujourd'hui en tant que membre chrétien, simple chrétien de l'Église chrétienne, catholique ou orthodoxe, comment pouvons-nous vivre cette unité dans la diversité dans notre monde si déprimé? Alors, je ne sais pas si vous avez l'une ou l'autre question pour préciser ces deux-ci. Oui, Noël.
Oui, ça serait difficile.
Merci. J'aurais une question pour Mgr Bonny. Il a dit, comme ça, ingénument, que du côté catholique, on avait un tiers de tradition derrière soi et 2/3 devant soi. J'aimerais bien qu'il explique ce qu'il entend par les 2/3 devant soi. Un tiers derrière, je vois assez bien, mais 2/3 devant, ça m'intéresserait. Merci.
Autre. Paul, oui, vas-y, bien fort.
Je voudrais poser une question, nous sommes venus ici pour réfléchir sur l'orthodoxie entre passé et avenir. Quoi. On vient encore de parler sur Noël. Mais c'est l'horizontale entre nous. Mais je reste un peu sur ma faim que nous n'avons pas eu pendant ce colloque un moment pour prier ensemble. Et alors c'est la question que je pose. Commencer peut-être la journée et pourquoi pas peut-être terminer le colloque en nous tournant vers Dieu avec Jésus-Christ.
Voilà, je vous laisse avec ces questions tout en disant qu'il y a quand même une prière. Hein. Nous avons commencé par une prière. Le mot Leben à 9h, c'était le tout début. Alors on verra ce que nous allons faire à la fin. C'est une grande surprise, peut-être du Saint-Esprit, mais en tout cas, je rappelle qu'il y aura Molébienne tout au début. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Monseigneur, il y avait plusieurs questions qui allaient dans le sens de votre conférence.
Je voulais juste poser, avec cette idée, Monseigneur, j'étais touché par votre intervention, et avant d'avoir une réponse sur la collégialité primauté, je voulais juste souligner le fait que pour les orthodoxes, il y a une différence entre collégialité et synodalité. Et quelquefois, dans les milieux catholiques, on ne saisit pas les détails et on mélange. Donc, synodo, ça veut dire ensemble sur le même chemin, mais les églises sont ensemble sur le même chemin. Quand les évêques participent à un synode, ce n'est pas par sa qualité de personne ordonnée, mais par celui qui a à sa charge une communauté. Épiscopale, donc un évêché. Donc pour nous, il ne s'agit pas d'avoir l'accord ou l'équilibre entre primauté et collégialité, mais d'avoir la synodalité présidée, vous voyez, par celui qui est le premier parmi les égaux. Et quelquefois, on a l'impression que cet aspect n'est pas assez compris, parce que s'il est compris, donc on peut avancer vite, dans le sens que on reconnaît tous les orthodoxes, on reconnaît à l'évêque de Rome, je dirais malheureusement, qui n'est plus patriarche d'Occident, dont les sens ecclésiologiques du terme, on reconnaît sa responsabilité pour l'Église qui est à sa charge. Donc, mais on n'aura jamais une primauté dans une collégialité avec des évêques qui ont un collègue supérieur. Donc, il faut avoir des réflexions sur la synodalité. Comment passer de l'Église, de la communion des Églises locales, dans la communion de l'Église, et non pas une collégialité qui réunit les responsables des personnes influentes dans l'Église. Parce que s'il y a la communion des Églises locales, c'est une autre chose. Une des grandes difficultés pour nous les orthodoxes, c'est que dans l'Église catholique, pour nous l'Église orthodoxe, l'Église locale, c'est l'Église une sainte catholique et apostolique. On a la catégorie canonique Église locale et système d'organisation ecclésiale. Donc l'Église d'une diocèse est la pleine Église, une sainte catholique et apostolique. Et les systèmes métropolitains, les systèmes patriarcaux, c'est un système d'unité autour du métropolitain, autour du patriarche. Mais ce sont les Églises locales qui se mettent en système justement pour manifester l'unité. Dans l'Église catholique, la perspective est un peu inversée. Et je pense que le dialogue théologique, le dialogue canonique et institutionnel, la méthode de travail doit tenir compte de ces aspects.
Si je peux d'abord réagir à la dernière remarque, c'est vrai que les termes dans le vocabulaire orthodoxe et le vocabulaire catholique, pour le dire ainsi, ne sont pas équivalents, mais analogues, mais d'une analogie quand même assez forte, c'est-à-dire comparable. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque niveau, on dit qu'il doit y avoir, disons, un mécanisme de coopération et quelqu'un qui préside. Et c'est vrai que les deux systèmes sont différents dans l'application de ces deux principes. Or, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui est donc souligné dans le document que je trouve important, le document de Venise 2005-2006, enfin, j'étais là mais j'ai oublié. Donc il y a trois niveaux au niveau de l'Église. Donc, il y a le niveau local qui est celui du diocèse et qu'un diocèse, il est disons géré par un évêque avec son conseil, son presbytère, son conseil presbytéral. Donc, c'est des réalités différentes, mais quand même analogues. Puis qu'il y a un deuxième niveau, ou un niveau intermédiaire, c'est-à-dire le niveau d'un pays ou d'une région dans l'Église catholique, ou d'un patriarcat dans l'Église orthodoxe, où il y a en effet un système synodal avec un patriarche, comparable, mais avec une bonne distance, avec nos conférences épiscopales. Mais, comme par exemple des évêques catholiques en Belgique, on n'est pas un synode, donc on n'a pas le même pouvoir législateur que vous avez, et notre archevêque, il n'est pas patriarche comme le patriarche de Roumanie. Donc, c'est analogue, mais différent, et de grandes différences, essentielles encore, mais quand même une structure comparable, le niveau et les deux principes. Et puis, au niveau universel, et là, l'enjeu du document de Venise était surtout là, qu'au niveau universel aussi, il faudrait un mécanisme de synodalité, de collégialité, entre, disons, les patriarches et celui qui est le premier d'entre eux. Commence alors toute la question de savoir s'il faut plutôt une primauté d'honneur ou une primauté de juridiction à ce niveau universel, mais pour faire fonctionner l'unité de l'Église au niveau universel entre les Églises locales et régionales, il faut aussi ces deux principes, synodal, collégial, slash, collégial, et une présidence, une primauté, pour faire fonctionner en fonction de la collégialité. Mais c'est vrai que, et là je rejoins dans la première question, qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Le chemin, disons, du dialogue théologique et de l'unité entre catholiques et orthodoxes, en tout cas, pour le moment, il est beaucoup plus long qu'on ne le pensait il y a 30, 40 ans. Et donc, les questions sont devenues plus complexes et plus difficiles qu'ils ne l'étaient ou qu'ils ne semblaient il y a 40 ans. C'est-à-dire des deux côtés. Donc, travailler à ce principe de collégialité, de diversité au sein de l'Église catholique s'est avéré plus difficile qu'on le pensait il y a 30 ans. Comme, si je puis dire, travailler à l'unité de l'orthodoxie s'est avéré aussi plus complexe et plus difficile qu'on ne le pensait il y a 30 ans. Donc, et ce n'est pas seulement lié à des questions ou des problèmes théologiques, c'est plutôt le cours de l'histoire qui nous crée aussi des difficultés. Quand, par exemple, il y a 30 ans, l'ambiance était ben, on est tous frères, on doit cheminer ensemble et tout cela. Ce qu'on vit maintenant, c'est le retour des particularismes, des protections, des protectorats, que ce soit au niveau économique, politique. Voyons un peu le développement de certains partis politiques chez nous en Belgique, en Hollande par exemple, ceux qui ont suivi les nouvelles d'hier soir et de ce matin. Donc c'est vraiment le retour de certains partis qu'on n'avait pas imaginé encore. Que cela reviendrait au début du troisième millénaire. Donc, c'est le cours de l'histoire aussi qui crée de nouveaux problèmes, de nouvelles questions. Donc, il y a des deux côtés, le travail n'est pas devenu plus simple. Et puis, je termine là-dessus, l'histoire s'inscrit, disons, d'une façon. Comment dire, il y a une continuité, mais l'histoire s'écrit surtout par des sauts. À un certain moment, il faut sauter dans une nouvelle étape. Et donc, par exemple, ce que, du côté de l'Église catholique, ce qu'on a fait dans du Concile Vatican II, ben, on est sauté, on a osé le risque de vivre quelque chose de nouveau. Et donc, je crois aussi que pour l'œcuménisme, attendre le moment où tout sera clair, tout sera sur papier, tous les paragraphes seront clairs, comme une nouvelle constitution, ben, ça on n'aura jamais ce moment. À un certain moment, on doit oser le risque, oser l'amitié, oser le mariage, oser le sacerdoce. Donc, à un certain moment, il faut sauter. Et là, le moment favorable, disons, à ce genre de risque, ça dépend de beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas.
Est-ce que je peux me permettre une petite question un petit peu méchante, mais vous en verrez le sens.
J'ai l'habitude comme évêque.
Okay. Très simple. Okay. On met ensemble sur cette fameuse île déserte le pape, le patriarcat de Moscou, le patriarcat de Roumanie, vous-même et quelques autres membres de la curie. On vous donne assez à boire, assez à manger, un petit peu de vodka, un petit peu de bon vin italien. Combien de temps vous faut-il pour être en communion, pour partager un calice?
Donc, je prends seulement le dernier mot que tu as dit, le calice.
Oui.
Quelques fois, j'ai représenté, parce que je ne suis plus de la curie romaine, okay. Mais quelques fois j'ai représenté le Saint-Siège au moment de l'intronisation de nouveaux patriarches. Par exemple en Arménie, par exemple en Égypte. Mm-hmm. Bon. À chaque fois, le cadeau du pape que nous on portait au nouveau patriarche orthodoxe, c'était un calice. Mm-hmm. Voilà. Ça veut dire que la commune, l'Eucharistie, nous ne pouvons pas encore la célébrer en commun, mais le calice représente tout l'espoir que nous portons comme chrétiens, c'est que le jour viendra et ne tardera pas trop, sinon il ne faut pas donner un calice maintenant si c'est pour 3000 dans 2 millénaires.
Donc, oui, oui.
Mieux donner un autre cadeau. mais si l'espoir est de pouvoir célébrer un jour l'Eucharistie en commun et de donner déjà un calice en gage, en signe d'espoir, tout est là dans ce symbole quand même.
Oui, c'est-à-dire, si je peux ajouter, c'est un petit peu mon impression à moi. Vu du point de vue russe, Je pense que si on mettait le patriarche et le pape pourraient plus ou moins s'accorder. Mais le patriarche sait qu'il ne peut pas prendre le peuple russe avec. Parce que l'Église a une fonction identitaire en Russie qui est tellement énorme. Il y a une peur russe d'être vendu aux étrangers que simplement il y aura une sorte de révolte. On risquerait au moins que ce soit très très bien expliqué et très bien préparé. On risquerait une révolte d'une bonne partie du peuple parce que quelque part l'Église orthodoxe est liée à l'identité. Et je pense que partout,
pas tellement expliqué que vécu.
Ok, je me laisse corriger par ma femme. Comme toujours. Parce que, et c'est aussi ici en Belgique, on a le même problème entre nous, l'Église orthodoxe a cette double fonction, une fois simplement d'Église, et deuxième de gardien d'une certaine identité. C'était important dans la vie orthodoxe, surtout quand on est réfugié. Oui, on a tout perdu. Dans les années 20-30, l'Église orthodoxe, c'était la seule chose qui donnait une certaine identité, un certain sens de valeur aux gens. Quand on avait ces gens qui sont venus dans les années 90 de Kazakhstan, Turkestan, qui sont venus ici en réfugiés, nous leur avons donné une structure qui était très importante. Très souvent, ils avaient perdu toute leur classification, toute leur classe, comme dit-on, tout leur niveau social. Ils étaient en bas du tas. L'Église orthodoxe leur a donné quand même une certaine identité. Mais est-ce que ça peut durer? Est-ce que c'est pas quelque part ça fausse la situation et bloque?
Non, c'est simplement pour confirmer que c'est vrai, il faut être réaliste et tenir compte de la possibilité réelle de créer de nouveaux schismes. Mm-hmm. Ce que nous, catholiques, on a vécu aussi après le deuxième concile du Vatican.
Oui.
Donc, et c'est vrai qu'en toute tradition, il y a des groupes, schismatiques, si vous voulez, qui ne font pas partie, disons, de la grande famille. Que ce soit, disons, en Russie, en Grèce, il y a toujours des fractions qui, à un certain moment, se sont, disons, dissociées du reste de l'Église. D'autre part, comme responsable d'Église, à un certain moment, il faut oser prendre sa responsabilité aussi. Le moment doit être favorable, c'est vrai. Mais quand, par exemple, en 64, c'était, je pense, pour la première fois, Paul VI et Athénagore de Constantinople se sont rencontrés, ils ont osé quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que certains vont toujours, disons, contester, et il faut prendre la contestation au sérieux. Donc, on est responsable de l'unité de son propre troupeau d'abord. Donc, je ne sous-estime pas la responsabilité qu'on porte, disons, pour l'unité interne d'une Église ou d'une tradition. D'autre part, à un certain moment, il faut oser le risque, quand c'est vraiment le risque de l'Évangile, quand c'est le risque de l'Évangile
et de l'évangélisation.
Et donc, d'où l'importance aussi du dialogue théologique, de découvrir ensemble ce qui est vraiment la volonté du Christ pour l'Église. Et ce courage-là, quand même, à certains moments, il faut l'avoir, de mettre un pas dans ce qu'ensemble on considère être la volonté du Christ pour son Église. Donc, en d'autres domaines, on peut manquer de courage, mais dans ce domaine-là, il faut quand même être...
Est-ce que nous continuons sur cette même question?
Peut-être une toute petite remarque sur ce même point. Je pense qu'on oublie parfois qu'il est très important pour la hiérarchie, pour le clergé, donc une grande responsabilité pédagogique de la part donc de, pour le clergé et la hiérarchie, de préparer le peuple de Dieu concernant donc et de toutes sortes de pour expliquer les rencontres et les accords. Et les rapprochements, je pense que ça a été très important dans le passé et ça restera très important dans l'avenir. Quand on pense à certaines réformes liturgiques, par exemple, dans l'histoire, ont créé des schismes, par exemple en Russie, d'autres ne l'ont pas fait. Presque à la même époque, au XVIIe siècle, il y a eu donc deux réformes liturgiques, une en Ukraine par Pierre Mohyla, qu'on a déjà mentionné, et une autre donc, par le patriarche Nikon. Les deux, bien sûr, dans un contexte culturel différent, hein, parce que c'était deux états différents à ce moment-là, mais dans deux églises orthodoxes différentes. Celle de Pierre Mohyla n'a causé aucun schisme, au contraire, elle a enrichi l'église et l'église orthodoxe plus tard aussi, donc en Russie. Celle de Nikon, par sa manière, parfois maladroite, par son manque de pédagogie, je pense, a créé un schisme. Et je pense que, donc, de fait, un pasteur doit tenir compte de son troupeau, mais a une très grande responsabilité pour préparer le troupeau pour faire comprendre les décisions œcuméniques que l'on a pris à différents niveaux de l'Église. Et c'est peut-être... Donc il ne suffit pas que le patriarche et le pape, etc., se rencontrent et que les théologiens dans les commissions se rencontrent. Il est très important pour que les accords soient connus, que les prêtres en parlent, que les évêques en parlent et préparent les fidèles à ne pas se cramponner à leur identité, qu'elle soit russe ou roumaine, ou catholique, parce que hein, il y a aussi une identité catholique qui, dans certains milieux, est très forte et pour qui la primauté du pape, compris d'une certaine manière, est très importante, etc., et pour qui la foi chrétienne tombe ou tient debout avec ça. Donc, je voudrais simplement souligner cette très grande importance de la pédagogie. Et je pense que nous sommes tous responsables. Nous avons tous cette responsabilité pédagogique dans le domaine de la... Ça fait partie de la transmission de la foi à ce moment.
Je suis très sensible à cette image du cadeau calice. Et je pense en germe, ça contient effectivement une réponse par rapport à deux tiers. En fait, c'est l'idée de donner l'espoir. Et je pense c'est aussi un regard critique par rapport à un manque de souplesse quand on pense de la tradition, des T majuscules ou T minuscules. Donc c'est très important de discerner où la souplesse est au rendez-vous, où est le nécessaire. Et évidemment, ce discernement passe par une évocation de l'esprit. Et là, nous sommes tout à fait au centre de notre colloque qui a mis au centre de notre attention entre passé et avenir. Qu'est-ce qui est entre passé et avenir? C'est le présent. C'est le présent qui est au centre de notre réflexion. Et je crois que c'est Newman qui disait que c'est l'esprit qui donne la contemporanéité des témoins du Christ d'être contemporain. Et pas seulement au troisième millénaire se souvenir des autres témoins, d'être contemporain du Christ. Ça libère énormément du fardeau des habitudes qui n'ont pas l'apport direct à la vérité. Et à mon avis, cet aspect, le rôle de l'esprit comme fondement de témoignage, c'est exactement à souvenir maintenant, c'est l'année quand même des 50 ans du début du Vatican II, et justement... En octobre, ça fera une date lorsque Père Emmanuel Lam a signalé à Monseigneur Marty que voilà, les orientaux s'inquiètent que le rôle de l'esprit n'est pas assez évoqué. Il était témoin, Père Emmanuel était témoin, et ça jouait un rôle
universel, très important pour l'Orient comme pour l'Occident. Et à mon avis, ce type de témoignage est vraiment à méditer et à mettre au centre de notre réflexion. Ce n'est pas seulement une anecdote historique, c'est un témoignage sans verdict, très fort. Et là, d'où vient ma question à Mgr Bonny, vous avez parlé donc des frontières à cette football économique. Il est clair que pour le dialogue de la vérité, un rôle majeur est joué par trois Roms. Rome 1, 2 et peut-être 3, et les autres qui prétendent être Roms. Autre rôle, peut-être pour dialogue des vies, dialogue des charités, et ouverte pour des pays comme Belgique, pour des pays plus modestes comme l'Ukraine, Roumanie et d'autres. Quelle articulation nouvelle percevez-vous à l'horizon des deux dialogues? Parce qu'on est clair que pour la commission mixte, pour ce type de formule, ils ont énormément de difficultés, c'est souvent freiné par des petites choses qui empêchent à progresser, alors que l'espérance des chrétiens est justement le développement. Nous voyons une forme de, en germe encore une fois, d'articulation entre deux dialogues de vérité et de vie, dans les communautés bien sûr. Par exemple, en Belgique, le rôle pionnier de Cheftogne, ensuite Thésée en France, ensuite Beauze en Italie. On peut rêver des choses analogues à l'Est, mais d'ailleurs, lorsque tous les pour les colloques que nous organisons à Kiev, les participants des Cheftogne, Beauze et Thésée viennent, on voit bien que leur partenaire exact, ce n'est pas c'est plutôt les milieux universitaires, des communautés étroitement attachées à la vie de l'Église, mais qui n'ont pas des difficultés connues des milieu proprement monastique. Mais quelles sont d'autres formes possibles, réelles, dans l'avenir proche, pour articuler et de cette façon renforcer les dialogues? Merci. Notre dialogue.
Enfin, je n'ai pas voulu, disons, diminuer le rôle ou l'importance des centres. J'ai seulement dit, voilà, les centres se trouvent un peu, enfin, des grands centres, les trois Roms, comme tu
responsabilité,
dis, se situent un peu sur les frontières, plutôt, et nous, on est au centre géographique de l'Europe. Mais c'est vrai que ce qu'on peut faire, disons, au niveau concret, le dialogue de la charité ou le dialogue de la vie, bon, c'est évidemment conditionné par les possibilités du lieu où on vit ensemble et des besoins là où on vit ensemble. Bon, je parle maintenant d'Anvers. Quand, par exemple, une communauté orthodoxe d'Anvers a besoin d'un lieu où célébrer la liturgie le dimanche matin, ben, nous, du côté catholique, on peut aider à voir où c'est possible. Ce n'est pas toujours facile à trouver. Là aussi, souvent, il faut prendre sa responsabilité d'évêque vis-à-vis nos propres prêtres ou nos propres fabriques d'église qui disent « Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici les autres dans notre église ?» Donc, ce n'est pas évident, mais donc, bon, c'est une chose. Puis, quelquefois, au niveau des familles qui habitent un quartier, qui habitent un immeuble, ou peut-être, ou entre, disons, équipe pastorale où on peut se rencontrer, organiser des rencontres, il ne faut jamais, disons, forcer les choses, mais là où il y a des possibilités. Je pense aussi au travail intellectuel, pas tellement ici le dialogue théologique entre nous, mais donc connaître nos traditions culturelles, littéraires, théologiques, artistiques, c'est quand même important. Les actions de charité, quelquefois, à Rome, de charité, pensons au problème que vit maintenant l'Europe de l'Est, ou la Grèce, hier, une belle image sur la télévision flamande, en tout cas, a été, hier soir, une belle image, c'est triste, mais on montrait comment, en Grèce, on ramassait des dons et des biens dans les églises grecques orthodoxes pour distribuer aux pauvres d'Athènes, aux pauvres de la Grèce. c'est une façon de vivre cette charité, en solidarité internationale peut-être. Puis la prière, quelqu'un a demandé la prière, mais c'est vrai, disons, là où on touche vraiment la richesse des églises, c'est la richesse spirituelle qui s'exprime dans nos prières, dans nos chants, dans nos liturgies. Assister, je ne dis pas nécessairement co-célébrer, parce que je sais que là il y a des barrières, des marches à prendre encore, mais au moins assister, être présent, écouter, admirer, c'est par là que commence cette prise de connaissance de l'un de l'autre. Je termine par reprendre le mot de centre, donc je pensais au centre géographique, mais je pense aussi au centre théologique. Ça veut dire que pour le dialogue, il faut toujours des théologiens ou des pasteurs du centre, parce que les extrêmes se combattent toujours. Donc pour faire le dialogue, pour donner une chance au dialogue, il faut donner, disons, il faut donner confiance aux théologiens et aux pasteurs du centre. Donc l'unité ne se construit jamais sur, disons, les positions extrêmes, mais elle se joue autour du centre. Et là où règnent les extrêmes, l'unité ou l'avenir de l'unité disparaît. Elle retourne là où de nouveau on peut jouer au centre du terrain. C'est une expression un peu symbolique, mais je crois que
oui, tout à fait,
vous comprenez plus ou moins ce que je veux dire dans notre tradition et dans la vôtre.
Absolument. Merci.
Voilà, on reprend quelques nouvelles questions. Donc j'en avais deux là qui ont été écrites. Qu'en est-il dans le rétablissement de la communion entre catholiques et orthodoxes, le problème de la procession de l'Esprit-Saint par le Père seul, d'après la formulation de Grégoire Palamas et même de Fossius bien avant? Voilà une première question. Une deuxième: quelle est selon vous là où les différences principales et les points communs entre l'anthropologie catholique et l'anthropologie orthodoxe telle que nous a été présentée hier matin? D'autres questions, le père Victor?
J'ai deux questions à Michael et à Constantine. Michael, tu as présenté des chiffres sur la présence orthodoxe en Belgique. D'où vient cette statistique? Parce qu'il y a certaines choses qui m'ont personnellement un peu étonné. Quand tu écris qu'en Belgique, il y a environ 20% des orthodoxes qui sont d'origine russe, russophone, et 30% grecs. Ou bien tu appliques par exemple des façons de calculer les orthodoxes selon trois différentes façons. Donc les Grecs sont calculés par les baptêmes, les Russes sont calculés par la présence des Pâques, et les Roumains sur la présence dominicale. C'est une question. L'autre question, Constantine, c'est de nouveau sur la question des newspeak, sur la langue comme l'instrument d'idéologie. Est-ce qu'il y a un danger aussi dans l'Église de créer un newspeak, surtout dans les pays comme la Russie, par exemple? Il y a une influence énorme de l'Église maintenant, et il y a beaucoup de coopération entre l'État et l'Église. Et donc, on peut introduire aussi une nouvelle langue qui est un peu s'impose. Est-ce que c'est une bonne tendance, ou cette tendance n'existe pas, ou qu'est-ce que vous pensez sur ça? Merci.
Maintenant, c'est le Brésil qui va nous interroger.
questions sur l'orthodoxie, pas du passé, mais de l'avenir. Sans exprimer un jugement négatif, pessimiste, nous voyons, nous apercevons la déconnexion à niveau des religiosités de l'Église à niveau général avec le monde de la jeunesse. Ma question, en écoutant des amis d'Ukraine, de Russie, de l'Est européen, qui parlent aussi de la sécularisation de l'Église et de la jeunesse aussi dans ce monde, ma question, comment ça se passe dans l'orthodoxie, dans l'actualité? Une deuxième question, c'est quel le dialogue, la coopération entre l'orthodoxie et les églises oniates? Merci.
Ok. Je reprends la question statistique d'abord. J'avais donné 3 chiffres. Il se peut que mon premier chiffre qui date d'un colloque qui date d'il y a 10 ans, il se peut qu'il soit un petit peu sous-estimé. Il faut aller, je pense, dans les 6 chiffres. Le deuxième chiffre, pour moi, est le plus important. C'est la pratique de Pâques. Et là, franchement, j'ai collé un petit peu ce que j'ai entendu ci et là. Mais là, je me sens être assez dans le bon. Si je me permets de dire une chose sur la jeunesse, je ne sais pas si vous serez d'accord, mes deux amis à gauche. Comment dirais-je? L'Église orthodoxe met peut-être moins l'accent sur la jeunesse que l'Église catholique. Il y a une chose que j'ai appris chez Johann Christiankin, qui était un des grands starets russes qui est mort il y a 5-6 ans. Si je l'ai bien compris, il a dit essentiellement, on devient adulte quand on a fait des vœux, que ce soit des vœux de mariage, que ce soit des vœux monachique. Normalement, on devrait pouvoir les faire jusqu'à l'âge de 25 ans. Jusqu'à ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment adulte. Et la jeunesse, c'est vraiment, on préfère que quelqu'un devienne adulte assez vite en faisant des vœux, des promesses à vie. Vraiment à s'implantant. Avant ça, c'est une sorte de presque une continuation de la puberté, si je peux dire. Voilà.
Il était une question par rapport à l'Esprit Saint. Je dois dire que bon, c'est une question qui a fait couler pas mal d'encre. Il y a des documents très importants qui sont publiés. Et je vois que dans la salle, il y a des gens tout à fait compétents qui savent bien des points sensibles, comme on dit. En même temps, puisqu'il était question d'audace, je dirais, est-ce que c'est par ce côté-là, puisque nous avons parlé du présent, du temps présent, d'actualité, des contemporanéités des témoins, est-ce que c'est ça qui, aujourd'hui, dérange des chrétiens en Belgique, en Ukraine, en Roumanie, en Russie? Je ne pense pas, franchement. Alors qu'il était temps, lorsque sur Hippodrome à Byzance, les gens discutaient la nature du fils et du homme, etc. Je crois beaucoup plus actuel, la même question de l'esprit, c'est précisément la nature pneumatologique du témoignage. Je crois la page, par exemple, des Actes des Apôtres, chapitre 5, de nouveau actuel, c'est le fait que nous sommes témoins, nous et l'esprit qui donne à ceux qui sont fidèles à Dieu de témoigner. Et à mon avis, par exemple, le père Alexandre Maigne,
martyr en Russie, disait « Le christianisme n'est fait que commencer ». C'était une belle manière de dire que Dieu tiers est devant nous. C'est-à-dire que vraiment mettre plutôt vers Alpha était derrière, il y a un Oméga qui nous attend. Et à mon avis, cette espérance, l'idée que nous commençons quelque chose d'important après des persécutions, après des totalitarismes en pleine Europe, en Allemagne, en Russie, etc., que nous pouvons recommencer au lieu de reposer une table des questions byzantines qui sont présents dans les manuels. Mais est-ce que c'est ça qui nous dérange dans notre vie? Est-ce que je me lève le matin en me disant est-ce que, terrible question de Filioque, je ne pense pas. J'ai d'autres préoccupations le matin et le soir. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout pour relativiser, mais je crois que pour les chrétiens d'Orient et d'Occident, il y a une autre manière d'appuyer le rôle central de l'esprit dans toute histoire après les Actes des Apôtres. Merci.
J'attendais le moment pour dire un mot du filioque. Parce qu'on a posé la question de la possession du Saint-Esprit. Parce que pour moi, c'est l'exemple même d'un dossier qui me rend triste, mais vraiment triste.
Je voulais vous soulager, monsieur.
Donc, quand on fait la liste des points qui nous divisent, en général, c'est purgatoire, la dormition de la Vierge Marie, le filioque et la primauté du pape.
L'Immaculée Conception.
Et l'Immaculée Conception. Alors, une liste. Bon. Mais ce que je dis, disons, du filioque est vrai pour les autres dossiers. Je regrette de le dire, mais souvent règnent les simplifications. Et c'est là que je regrette vraiment qu'on est dans la dictature, enfin, maintenant c'est une exagération, c'est la dictature des simplifications qui rend impossible, disons, un rapprochement sérieux basé sur les vrais et les grands pères de l'Église, qui sont beaucoup plus proches les uns des autres que qu'on ne le dit dans les publications plus, disons, populaires que ce n'est le cas dans les grands textes des grands théologiens. Et je sais bien que, par exemple, pour le filioque, entre Saint Basile et Saint Augustin, il y a des accents différents. Heureusement, mais louons le Seigneur qui ne dise pas tout la même chose. Et que notre théologie, surtout quand il s'agit de Dieu, est tellement riche et grande qu'il peut y avoir des accents différents. Et donc le filioque, c'est donc l'argument qu'on sort toujours dès qu'on se trouve dans une impasse et qu'on ne veut pas, disons, avancer. On dit « Ah, mais il y a encore le filioque. Bon. » On va continuer comme ça jusqu'à la fin des temps. Et une semaine après, en certain moment, on aura le courage de dire, mettons les grands textes, disons, patristiques, des grands saints, des Cappadociens, de Saint Augustin, de Saint Thomas, les grands, les uns, et c'est vrai qu'il y a des accents différents. Mais donc, la question de comment dire en bon français, donc, la principalité, de Père comme première source, comme le Père comme source principale de l'Esprit, ça fait partie de la tradition catholique, c'est clair. Il y a évidemment un accent quant au rapport entre l'ordre de l'économie et l'ordre intratrinitaire. Donc la tradition catholique dit plutôt, comme dans l'ordre de l'économie, où c'est clair que l'Esprit, c'est l'Esprit du Christ ressuscité qui nous est donné, et que l'ordre de l'économie, quand même, est une révélation de l'ordre intratrinitaire, quelque part dans l'ordre intratrinitaire, il doit y être aussi un rapport, quelque part entre le Père et le Fils, dans la procession du Saint-Esprit. Bon. Mais dire que ces différences-là, disons, sont de nature à devoir nous diviser encore aujourd'hui, là, vraiment, je ne comprends pas et je regrette. Donc, et c'est trop facile dans le monde et l'Église aujourd'hui de dire, voilà, on ne peut pas aller ensemble aux jeunes générations
pour un motif comme celui-ci. Il y a quelque chose qui me heurte en tout cas. Et donc, surtout que je suis convaincu que, en retournant aux grandes sources et aux grands pères de l'Église, le fondement pour dire voilà, avec des accents différents, mais des accents qui ne doivent pas, qui n'excluent pas la vérité, ou qui ne rendent pas contradictoire ce qu'on dit, parce que qui ne rendent pas contradictoire notre théologie. Donc, pour vous dire par exemple qu'on a quand même là aussi, il y a des grands progrès. Donc, au plus haut niveau, il y a eu dans les années, je pense, 80, Emmanuel Lannier a contribué aussi, un groupe de théologiens catholiques orthodoxes qui ont élaboré un petit tract sur la procession de l'Esprit-Saint. Et donc, du côté catholique et orthodoxe, on était d'accord sur ce texte, seulement qu'on n'a pas osé le publier pour la même raison, disons, que la question de l'Eucharistie là-bas, que il n'y a pas, on avait l'impression que cela allait diviser plutôt l'orthodoxie. Et donc, il y a déjà, au moins, déjà plusieurs textes, mais il y a un texte qui a été préparé par une commission mixte catholique orthodoxe qui existe, et que finalement, donc, ce texte, il a été publié par le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens de son propre chef. Donc, c'est le Conseil pontifical qui a publié le texte. Alors, une autre proposition à Rome a été, et ce serait, si on pouvait, disons, conclure là, sur le mur d'entrée, la façade, si je ne me trompe, de l'ancienne basilique constantinienne, disons, de Saint-Pierre, se trouvait le texte du Credo de Constantinople dans sa version originale, sans le credo, et sans le filioque. Alors, dans l'Église catholique, depuis le Concile Vatican II, on peut utiliser les deux formes. Donc, quand il y a une célébration œcuménique à la basilique Saint-Pierre, on utilise Nicée-Constantinople sans le filioque. Donc, l'Église catholique n'a jamais dit que celui, l'original, sans le filioque n'était plus valide. Et si on pouvait dire, voilà, acceptons les deux formules et permettons, disons, aux communautés chrétiennes de l'utiliser, enfin, comme on a déjà le credo des apôtres et celui plus bref, et Nicée-Constantinople dans ces deux formes, mais de trouver une solution, disons, dans ce genre-là. Mais ce que je trouverai que c'est un problème de ce genre-là doivent nous diviser encore. Contre, là je suis vraiment contre la pub, contre, disons, le meilleur de nos propres, disons, des pères de l'Église.
Je ne veux pas être pessimiste, moi je suis optimiste par nature. Mais, vous savez, on trouvera toujours des difficultés. Donc moi je pense que même si Dieu fait venir dans le monde le Christ, nous dire quelle est la solution sur le filioque et sur les autres points, on aura des difficultés à accepter. Donc le problème c'est que nous, on a encore des méfiances, des préjugés qui n'ont pas tombé. Et quelquefois, et les orthodoxes et les catholiques, on sent le besoin de ne pas aller trop loin pour ne pas vexer les autres et pour ne pas provoquer d'autres schismes. Vous avez bien dit qu'on doit sauter, faire des sauts. Bon, l'idéal serait que le peuple saute avec nous. Parce que si on fait des sauts et on ne fait que nous-mêmes, il y a pas mal dans l'histoire des sauts qui ont été faits de nos chefs, et on sait à quoi ça a donné. Le problème, c'est que je crois que Dieu va nous pousser. On est là. Moi, je pense que beaucoup plus loin que maintenant, au niveau théologique, on n'a pas où aller. Et moi, je fais partie de la commission théologique orthodoxe catholique en France, pour les pays francophones. Officielle. On connaît. Là, dans la commission, on sait de quoi il s'agit. Je pense qu'on ne va pas découvrir grand-chose dans la commission. Le problème, c'est qu'il y a tellement de préjugés dans le peuple, hein, et ça ne va pas venir comme ça, par des discours des théologiens. Je pense qu'on devrait arriver à un témoignage au plus bas de l'Église, pour que la méfiance cesse. Parce qu'au moment où Dieu va nous pousser, pour qu'on puisse sauter tous ensemble, il va nous pousser à certains moments. Le risque est de rester dans la théologie, et à ce moment-là, qu'on soit seul sur le bord de... On soit poussé seul, non pas avec le peuple. Donc, par exemple, moi j'ai de petites idées, peut-être qu'elles ne sont pas très intéressantes, mais dans l'Église orthodoxe, on souffre maintenant de certains manques d'expérience dans tel ou tel ou tel sujet. Un exemple, je vous donne une idée, peut-être que ça peut aller plus loin. En Roumanie, on a changé la loi de l'enseignement. Les années prochaines, le financement va suivre l'enfant, donc non pas l'école. Il y a deux solutions. Que l'Église catholique fonde des écoles catholiques en Roumanie, parce qu'ils ont l'expérience pour les écoles catholiques en Roumanie, écoles confessionnelles, des écoles catholiques, l'expérience qu'ils ont en Occident, ça leur permet d'avoir des écoles catholiques très bonnes, où les élèves orthodoxes vont enseigner, et les autres vont crier scandale, prosélytisme. Ou de dire que l'Église catholique dit, bon, il y a cette opportunité chez vous, nous vous apportons notre expertise, on ne veut pas fonder, nous, des écoles catholiques. Là, il y a le peuple qui est orthodoxe. On vous aide, avec notre expertise, pour faire des écoles confessionnelles orthodoxes. Donc nous apportons notre expertise, on vous montre ouvertement que ça ne nous intéresse pas le prosélytisme. Pareil, par exemple, au niveau de laïc, on a un manque de volontariat dans l'Église, de bénévolat dans l'Église. À la place de dire, bon, on fonde une nouvelle congrégation ou on implante une nouvelle congrégation en Roumanie, en telle ou telle ville, on dit, non, on apporte notre expertise pour que vous puissiez faire, vous, avec notre expertise, des ateliers, de choses, et on n'a pas besoin de vos fidèles. Ouais. Donc, on doit briser les préjugés, et ça ne se fait pas par la théorie. On pourra discuter au niveau théologique des dizaines d'années, des centaines d'années, les choses ne vont pas s'améliorer. Mais transférer l'expérience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, moi, je donne un exemple. À la représentation de l'exorcisme de l'Union européenne, on a essayé, on n'a pas frappé peut-être la bonne porte, mais il y a l'opportunité en Roumanie d'avoir des projets européens, des programmes, des projets européens pour les transferts de compétences. Donc, avoir des projets de formation, par exemple, pour les projets sociaux de l'Église en Roumanie, avoir des partenariats avec les pays occidentaux et faire des échanges. On n'a pas trouvé. Moi, j'ai pris contact avec Caritas, c'est pas possible. On a pris contact avec d'autres fondations catholiques et protestantes, oh, c'est compliqué. Bon, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire venir de Roumanie des doyens de l'Église roumaine, des têtus contre l'Église catholique, les faire voir comment l'Église catholique s'occupe de dossiers sociaux et les faire rentrer en Roumanie avec la tête ouverte. On n'a pas pu le faire. Bon, peut-être qu'on n'a pas frappé à la bonne porte, mais je dis, il y a des opportunités pour faire tomber les barrières. Et c'est de là, parce que théologiquement, vous êtes sûr que tous ceux qui sont dans la commission de dialogue orthodoxe catholique sont déjà convaincus que la solution est théologique. Il ne faut pas perdre le temps. Ils peuvent rédiger déjà des textes. Si il n'y a pas de préjugés derrière eux. Mais comme il y a des préjugés derrière eux, ils se sentent responsables, ils ne veulent pas prendre de responsabilité. Donc, c'est pour cela que je pense que là, il faut travailler.
Permettez-moi de marier un appel de peuple venant avec la parole de l'évêque. Écoutez, le peuple aime un bon football. Et je crois qu'il y a déjà une idée. Par exemple, nos jeunes ont remarqué qu'en Italie, il y a l'idée de l'équipe bénie par le pape, etc. Voilà. Donc, je me demande, de manière pratico-pratique, cette année, il y a un grand championnat de foot, Euro 12, qui est joué en Ukraine et en Pologne, au mois de juin. Vous êtes tous les bienvenus. Pourquoi pas faire des vrais jeux écuméniques? Et à mon avis, les grands fans des équipes catholiques orthodoxes
très vite vont dire aux évêques, mais pourquoi vous n'êtes pas si audacieux? Nous sommes tout à fait enchantés par les équipes respectives et ça pourra tout simplement faire progresser infiniment plus fortement que les questions des fidéocrates. À mon avis, vraiment, il faut donner des signes très concrets aux gens que ça vaut la peine. Que ce dialogue-là est réel, il est voulu, pas seulement par des théologiens. D'ailleurs, votre question de l'euro, pourquoi nous sommes plutôt en queue qu'en tête, m'a fait penser à une grande remarque, je crois, de Balthazar. Il dirait que la théologie, c'est une chose trop grande à laisser le faire aux théologiens. La même chose avec l'Europe. Il y a des choses trop grandes à laisser le faire aux techniciens, aux spécialistes. Donc, à aller au-delà, et là, on risque de rejoindre un contexte plus large et plus universel. Merci.
Bon, c'est seulement pour dire que je suis d'accord que là où on vit ensemble, il faut faire le possible. D'ailleurs, c'est dans tous les documents de la commission mixte catholique orthodoxe, le document de Balamand aussi, hein, de faire tout le possible pour ne pas, disons, éterniser dans la vie concrète donc des paroisses, des communautés, des écoles, ce qui nous divise. Et partout où c'est possible, d'essayer, disons, plus de collaborer plutôt que de construire structure à côté de structure. Et là où ce n'est pas nécessaire, par exemple, de doubler les structures, de travailler ensemble, il est évident que dans le concret de la vie et des situations particulières de certains pays, ce n'est pas facile. Bon, la situation en Roumanie. Mais que, donc, c'est vrai que là où on peut collaborer, qu'on doit le faire plutôt. Surtout là où on crée de nouvelles structures. Les structures héritées du passé, elles existent. Bon, ça fait partie de la réalité. Là où on construit, disons, de nouvelles structures, là, il faudrait privilégier la collaboration plutôt que de, disons, d'inventer de nouveaux antagonismes, de nouvelles concurrences. Parce que c'est plutôt cela. Je suis convaincu aussi que si cela réussit, donc qu'on travaille mieux ensemble, qu'au niveau, disons, confiance, il n'y ait plus de confiance, qu'un ballon comme celui du filioque, il va se dégonfler de soi. Donc, parce qu'il est animé plutôt par des résistances et des problèmes de ce genre que vraiment par des raisons théologiques.
Une question qui n'était pas répondue des miadis.
Le temps avance. C'est vrai qu'il y avait la question de l'uniatisme. C'est une question aussi qu'on m'avait déjà posée dans les couloirs, mais je crois que c'est aussi un grand sujet. Alors je ne sais pas si on va avoir le temps de prendre cette question-là.
Deux mots positifs.
Alors je laisse à Constantin ces deux mots. Et puis je propose que nous prions ensemble,
oui,
à la suggestion de Saint Paul. Nous allons prier à notre Père, et Dieu, Dieu du ciel.
Oui, peut-être c'est bien de ne pas passer sous silence cette question qui était publiquement posée sur l'immigratisme. Comme parmi des églises grecques catholiques, la plus grande est située en Ukraine, et on connaît bien que dans les dialogues, par exemple, entre Rome numéro 1 et numéro 3, c'est le plus grand débat. Je voulais juste apporter des nouvelles plutôt positives, dans ce sens que pour la première fois de l'histoire de l'uniatisme, le nouveau primat archevêque grec-catholique de Kiev était intronisé à Kiev avec une présence d'évêques orthodoxes envoyés par métropolite Vladimir de Kiev avec une lettre officielle qui était lue. Et je crois que c'est une nouveauté. Peut-être ce n'est pas affiché par CNN et grandes chaînes de télévision belges, mais c'est vraiment pour la première fois depuis 4 siècles que l'évêque orthodoxe participait dans cette entronisation. Et donc il y a d'autres choses nouvelles, positives, qui se font, et en particulier dans le Stément Centre Saint-Clément participe dans la création des confiances pour dépasser estrangement, dont parlait Yves Congar,
justement des choses qui séparent plus que des questions proprement théologiques. Merci.
Voilà, je remercie encore une fois tous nos intervenants. Merci aussi le public, bien sûr.